histoire de psychanalyse par Jacqueline Miller. Aujourd'hui, Anguille en politique.
Ah, la psychanalyse et la politique. Il faut tout de même en dire quelque chose. Parce que l'inconscient ne connaît pas le temps, mais la psychanalyse, oui. La psychanalyse vous donne ce que Stendhal appelait la hardiesse de n'être pas comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde aspire à n'être pas comme tout le monde. Lacan, certainement, n'était pas comme tout le monde et il arrive qu'à lui, on reproche sa façon de n'être pas comme tout le monde. Et lui, que disait-il de la politique? Il enseignait à son propos surtout la défiance. Défiance à l'endroit des idéaux, des systèmes, des utopies dont le champ politique est semé. Il ne croyait pas aux lois de l'histoire. On ne trouve pas un mot chez lui qui puisse faire penser qu'il entretenait l'idée que il pourrait y avoir une cité radieuse, qu'elle soit placée dans le passé ou qu'elle soit projetée dans l'avenir. Pas de nostalgie, pas d'espoir non plus, mais une grande sobriété concernant la politique, avec des remarques nombreuses qui vont de l'ironie au cynisme, avec des sarcasmes et des ricanements, qui soulignent que la politique est comique et qu'en même temps elle est meurtrière. Quand il lit les mémoires du cardinal de Rest, ce qu'il retient, c'est ce que dit le cardinal, que ce sont toujours les peuples qui soldent les frais de l'événement politique. Ou encore, Lacan peint le conquérant qui arrive toujours, avec ses mots à la bouche, au travail. L'aliénation du travail, pour Lacan, c'était un fait. Mais qui n'introduisait pas à proprement parler une révolte collective, parce que pour lui, c'était un fait de structure, et la lutte des classes encourage seulement les exploités à rivaliser sur qui seront les exploiteurs. Bref, on pourrait dire que dans le champ politique, Lacan était contre tout ce qui est pour. De plus, la politique procède par des identifications, elle manipule des maîtres mots, des images, et elle cherche par là à capturer le sujet, tandis que la psychanalyse, son opération propre, et va à l'opposé, va contre les identifications du sujet, elle les défait une à une, elle les fait tomber, comme les peaux d'un oignon, et de ce fait, elle rend le sujet à son vide, et ce qui lui permet, du même coup, de dégager le système qui, sans qu'il le sache, ordonnait ses choix et sa destinée. Alors, vu comme ça, la psychanalyse, on peut le dire, est l'envers de la politique. L'inconscient, c'est autre chose. L'inconscient, Lacan disait volontiers que c'est la même chose que la politique. Parce que l'inconscient, c'est pas une substance qui serait cachée dans l'individu, dans son mot clos, qu'il s'agirait de forcer. L'inconscient, c'est une relation, quelque chose qui se produit dans une relation, et c'est bien pourquoi on y a accès dans une relation, qui est la relation avec le psychanalyste. D'ailleurs, dans la vie mentale de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est déjà impliqué comme modèle, comme objet, comme soutien ou comme obstacle. La psychologie individuelle est toujours d'emblée psychologie sociale. Si l'homme est un animal politique, c'est parce que il est à la fois parlant et parlé par les autres, il est sujet de l'inconscient, et ce qui fait qu'il reçoit toujours d'un autre du discours qui tourne dans l'univers, il en reçoit les mots qui le maîtrisent, qui le représentent et aussi qui le dénaturent. Alors, à partir de la psychanalyse, on apprend quelque chose sur le pouvoir qu'on peut prendre sur quelqu'un, et on voit qu'il n'en faut pas beaucoup pour s'imposer. Qu'il faut, comment dire, des mots bien choisis, essentiellement. Et la publicité, qui est devenue une industrie essentielle à la consommation, a depuis longtemps tiré parti, profit de ce que la psychanalyse a permis là d'apercevoir. Et la politique, dans les démocraties, enfin les nôtres, ne peut plus se tourner vers ceux qu'on appelle encore des citoyens sans passer par la publicité. Il faut constater que le marketing politique est devenu un art, voire une industrie, qui produit à tire-larigot des sigles, des slogans, des emblèmes, des petites phrases, et en fonction de données recueillies à l'aide d'enquêtes sur l'opinion, de sondages pointus et de groupes de discussion où, d'abord, on écoute ce qui se dit pour isoler les mots qui vont pouvoir s'imposer à l'opinion. Et il est frappant que, loin de cacher ces manipulations, on les exhibe, car maintenant le public sait qu'elles existent et veut les connaître, veut visiter les coulisses. Donc on met en scène non seulement le décor, mais on fait aussi un spectacle avec l'envers du décor, au moins un des envers du décor. Donc les praticiens de la politique sont les premiers à savoir que la politique n'est plus désormais l'affaire de grands idéaux, mais de petites phrases, et ils font avec. Et aussi, il semble que les citoyens veulent qu'il en soit ainsi. Le fait que la politique ne soit plus idéalisée n'est pas un malheur de la démocratie. C'est sans doute son destin, sa logique, et si je puis dire, c'est son désir. On doit constater très généralement la décadence de l'absolu dans le champ politique. Et c'est heureux, c'est à l'opposé du fanatisme, mais ça n'ouvre pas la voie à la discussion rationnelle de l'intérêt par des citoyens dépassionnés. C'est le règne de l'opinion, le règne sur l'opinion, et le débat public se déroule désormais dans l'élément de l'incroyance et de la tromperie, de la manipulation avouée et consentie, et c'est en quelque sorte la règle du jeu. Et le déplorer aussi, ça fait partie du jeu. Et il n'y a personne pour dire que c'est abject, sauf quelques imprécateurs, qu'on a réduits à l'impuissance d'ailleurs, et quand il arrive que l'un ait du talent, eh bien on se félicite du piment qu'il apporte à ce débat public, et cela est pris dans le mouvement même de la civilisation, qui met en évidence partout le caractère artificiel, construit de toute chose en ce monde. Le lien social, les croyances, les significations, et la psychanalyse y participe. Puisque il n'y a pas eu de discours plus puissant à faire vaciller les semblants de la civilisation. Alors, celui qui pratique la psychanalyse doit logiquement vouloir les conditions matérielles de cette pratique. La première, c'est l'existence d'une société civile au sens propre, distincte de l'État. La psychanalyse n'existe pas là où il n'est pas permis de faire de l'ironie. Elle n'existe pas là où il n'est pas permis de mettre en question les idéaux sans en pâtir. Donc, la psychanalyse est très clairement incompatible avec tout ordre de type totalitaire. Elle a au contraire partie liée avec la liberté d'expression, avec le pluralisme. Donc, tant que la division du travail, la démocratie et l'individualisme n'ont pas exercé leur ravage, il n'y a pas de place pour la psychanalyse. On ne peut pas dire pour autant que le libéralisme soit la condition politique de la psychanalyse, puisque aux États-Unis, par exemple, si la psychanalyse lacanienne intéresse bien les intellectuels, sa pratique effective ne fait qu'y vivoter. Freud lui-même considérait d'ailleurs que la psychanalyse s'était dénaturée en traversant l'Atlantique, et que les immigrés qui la répandaient avaient laissé derrière eux l'Europe comme un mauvais souvenir et qui n'avaient eu de cesse que de se conformer aux valeurs de ce que jadis on appelait l'American Way of Life, qu'on n'appelle plus comme ça parce que ça devient tous les jours davantage le nôtre. Bien qu'on voit se cristalliser au niveau politique le découplage des sensibilités et des mœurs entre l'Amérique et la France, voire l'Europe. Mais ça n'empêche pas, ces incidents politiques n'empêchent pas pour autant l'américanisation de progresser. Alors, la psychanalyse, comme telle, est-elle révolutionnaire ou est-elle réactionnaire? Bon, c'est un Janus. C'est le miroir aux alouettes. On en fait un usage explicite dans les débats de société, on lui fait dire le pour et le contre. Ce qui est vraiment impliqué dans sa doctrine, c'est qu'un psychanalyste est là pour faire des psychanalyses, accessoirement pour faire avancer la psychanalyse et pour la répandre dans le monde. Et s'il intervient dans le débat public ou sur les ondes, par exemple, à cette fin, eh ben, c'est bien. Révolutionnaire, la psychanalyse ne l'est certainement pas. Elle est certainement plus portée à mettre en valeur des invariants qu'à placer ses espoirs dans des changements d'ordre politique. Elle croit opérer à un niveau bien plus fondamental du sujet, où les points de l'espace-temps sont dans une relation topologique et non plus métrique. Le plus lointain se révèle soudain le plus proche. Un psychanalyste est donc volontiers du parti rien de nouveau, qui professe que plus ça change et plus c'est la même chose, sauf que ce ne peut être que pire parce qu'on a cru que ce serait mieux. La psychanalyse n'est pas révolutionnaire, mais elle est subversive, ce qui n'est pas pareil, à savoir qu'elle va contre les identifications, contre les idéaux, contre les maîtres mots, d'ailleurs tout le monde le sait. Quand vous voyez partir un de vos proches en analyse, vous craignez qu'il cesse d'honorer son père, sa mère, son conjoint et le bon Dieu. On a voulu faire une psychanalyse adaptative plutôt que subversive, mais on n'a pas vraiment réussi. Et maintenant, il faut faire attention. Plus ça change et plus c'est la même chose sans doute, mais ça change quand même. Que ça reste la même chose veut dire que ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Et que cela ne se résorbe pas. Donc, si elle est subversive, la psychanalyse n'est pas pour autant progressiste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit réactionnaire. Alors, est-ce qu'elle est désespérée? Disons plutôt qu'une psychanalyse vous opère de l'espoir. Elle procède à l'ablation de l'espérance, d'où résulte un allègement certain. De ce fait, Non seulement les psychanalystes ne sont pas des militants de la psychanalyse, sauf parfois, et ça n'est pas forcément pour leur bonheur, mais encore, ils sont plutôt portés à défriser les militants. Et il en est résulté qu'ils sont très régulièrement, les psychanalystes, dépassés par les conséquences de leur opération, qui a fait vaciller tous les semblants et en particulier toutes les normes qui jusqu'à présent tempéraient la relation sexuelle en l'insérant dans la famille, dans la procréation. Et les psychanalystes auraient bien voulu que les semblants de jadis tiennent le coup jusqu'à la fin des temps. Eh bien, pas du tout. La psychanalyse a fait des dégâts sensationnels dans la tradition. Et à ces dégâts sont venus se conjoindre les possibilités inédites offertes par le progrès de la biologie, par la procréation assistée, par le clonage, par le déchiffrage du génome humain, la perspective que l'homme puisse devenir lui-même un organisme génétiquement modifié. De telle sorte que on doit constater que le nom du père n'est plus ce qu'il était.
Histoire de psychanalyse par Jacques-Alain Miller. Réalisation Christine Berlamont, Éric Boisset. Demain, 20e et dernière.